va conclure ce forum avec une page d'histoire, avec la commémoration d'un centenaire, ma foi, assez triste. C'est celui des 100 ans de la bataille de Verdun. 10 mois de combat, plus de 300 000 morts. Et c'est moins connu, plusieurs milliers de Suisses ont participé à ces combats. Qui étaient-ils? Pourquoi se sont-ils engagés? Dans quel camp? On va regarder tout ça de plus près avec vous, Christophe Villemier. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir monsieur.
Vous êtes historien, spécialiste de la Grande Guerre. Vous êtes aussi le président de la Société d'Histoire de la Suisse romande. Alors peut-être déjà un petit mot sur le contexte. C'était un contexte très particulier quand même, la Grande Guerre en Suisse. La Suisse complètement divisée, avec d'un côté des romans très francophiles, des alémaniques très germanophiles. C'est ça qui explique cet engagement de Suisse dans un camp et dans l'autre?
Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'engagement des uns et des autres, que ce soit du côté allemand, autrichien ou du côté français. Alors oui, la Suisse est d'une part partagée en francophiles et germanophiles, mais c'est surtout, en fin de compte, la conquête par les Allemands de la Belgique, hein, qui va marquer les esprits de manière internationale, et plus particulièrement en Suisse, parce que la Belgique est alors un pays neutre, placé sous la sauvegarde des États européens depuis la moitié du 19e siècle, et évidemment pour les Suisses, qui voit un pays neutre, normalement inattaquable, se faire attaquer de manière illégale, puisque à ce moment-là, les Allemands mènent une guerre qui n'est juridiquement pas légale, hein, en attaquant un pays neutre. Eh bien, les Suisses prennent peur, et la presse, notamment romande, va relayer cette peur très largement et allumer chez beaucoup de personnes. Des velléités de belliciste, si on veut bien. On décompte à peu près 6 à 8 000 Suisses quand même qui sont engagés dans les rangs français.
6 à 8 000, c'est quand même un chiffre considérable. Alors on sait que ces citoyens suisses auraient été considérés comme des mercenaires. C'était un engagement qui était illégal.
Non, ça n'était pas illégal, c'était pas des mercenaires. Ils se battaient pas pour l'argent, ils se battaient par conviction. À savoir que le code pénal militaire va interdire l'engagement étranger en 1927, donc il n'y a pas à ce moment-là d'interdiction formelle, même si le Conseil fédéral, en 1915 déjà, va demander à ses ressortissants d'éviter de s'engager dans les armées étrangères.
Alors, 6 à 8 000 Suisses qui se sont engagés dès le début de la guerre, combien étaient-ils à Verdun?
Très difficile à définir. On sait que, en fait, Verdun, c'est beaucoup plus de morts que vous avez dit. C'est 700 000 morts. Hein. Il y a à peu près 360 000 Français et 340 000 Allemands morts, disparus ou blessés. Et c'est pas une bataille, en fait. C'est trois batailles, si on veut bien. Parce que la bataille de Verdun se déroule pendant 10 mois, et pour alléger l'effort français, les alliés de la France, l'Angleterre et la Russie décident de mener deux offensives. Celle de la Somme, qui se passe exactement au même moment, hein, qui va entraîner 1 million de morts, et puis la bataille de Brusilov sur le front de l'Est, la plus grande bataille de l'armée russe, qui va obliger les Allemands à retirer des troupes de France. Alors les Suisses, eh bien, ils se battent dans la Somme, ils se battent à Verdun. Par exemple, on a plusieurs cas, c'est le cas d'Edouard Guetta, qui était fils du consul suisse à Marseille, qui est tué le 27 septembre 1916 par un éclat de but.
Comment vous retrouvez la trace de ces Suisses? Vous parlez justement d'un fils de consul. On imagine qu'il y a des archives consulaires qui permettent de retrouver notamment la trace. Mais où c'est que finalement, dans quel type d'archives on retrouve le parcours de ces Suisses?
Alors, c'est difficile de retrouver exactement les archives pour ça, parce que les Suisses qui sont battus en France, en fait, se battaient dans la Légion étrangère, notamment dans le régiment de marche de la Légion étrangère, puis dans le régiment de marche d'Afrique. Ils sont aussi battus aux Dardanelles. C'est dans la presse, en fait. La presse de l'époque, qu'elle soit française, allemande ou suisse, suivait de très près le déroulement des combats, et quotidiennement, la Gazette de Lausanne, par exemple, ou le Journal de Genève, faisait des comptes rendus. Et au sein de ces comptes rendus, des fois, ils évoquaient des Suisses qui étaient dans les combats.
Christophe Villemier, il y a des Suisses qui sont allés à Verdun pour combattre, mais il y a aussi eu des Suisses recrutés par les services de renseignement. Comment ça peut s'expliquer, ça?
Alors, simple, la Suisse, elle est au milieu du conflit. Hein. C'est un îlot de paix, si on veut bien. Et puis, la guerre se déroule à ses portes, véritablement, au large dans le canton du Jura. On vient, les officiers suisses viennent voir le déroulement des batailles qui se déroulent à quelques centaines de mètres. Et donc, le territoire suisse est un lieu de passage extrêmement aisé. Les distances sont très courtes. On passe d'un arrière de front à l'arrière, à l'autre, très très facilement, très aisément. Donc, pour faire passer des informations, pour l'espionnage, c'est Voilà, c'est un lieu extrêmement propice. En même temps, une crise économique frappe la Suisse à cause de la guerre. Les gens sont dans la misère, hein. Ils sont en demande d'argent. Donc c'est très facile de recruter pour quelques centaines de francs, à savoir qu'en 1915, un menuisier gagne 1,40 franc de l'heure. Donc 300 francs, c'est une somme rondelette. Et on recrute, les Allemands, les Français recrutent des Suisses par centaines pour faire office d'agents de renseignement, si on veut bien. La presse, à cette époque-là, relate entre 1914 et 1919, même après la guerre, à peu près 120 affaires d'espionnage.
Et assez étonnamment, il y avait des femmes parmi ces agents de renseignement.
Ah oui, il y avait des femmes, majorité d'hommes, bien sûr, mais aussi des femmes, notamment ce qu'on appelait alors des demi-mondaines, qui étaient chargées de charmer des soldats pour récupérer des informations, des demi-mondaines qui étaient chanteuses de cabaret, un peu prostituées. On a plusieurs cas assez connus. Antoinette Avico, par exemple, qui était genoise, fusillée à Marseille en 1918, ou bien une demoiselle Zemp, suisse associée, condamnée à mort pour espionnage à Paris, elle a été graciée. Il y en a d'autres encore, évidemment.
Alors, on a parlé de ces Suisses qui se sont engagés, militairement ou non, auprès de ces forces armées étrangères, mais il y a un autre aspect de cette période qui est relativement méconnue, c'est le sort de ces soldats français, blessés ou malades, qui ont été accueillis en Suisse, précisément pendant la Grande Guerre. Il y a une exposition actuellement à Sierre qui leur rend hommage. Ces internés, comme on les appelait, ils ont été bien accueillis en Suisse à l'époque.
Ils ont été accueillis dans toute la Suisse, depuis les Grisons jusque dans le Valais, quand on voit à Fribourg aussi. Oui, ils ont été relativement très bien accueillis. De quelle nationalité étaient-ils ? Allemands, français, belges, anglais. Évidemment, on évitait de les mettre au même endroit. Les Allemands étaient à Davos, les Anglais à Châteaudet. Et il y avait quand même des endroits où ils se retrouvaient à quelques distances, à Berne par exemple, où ils faisaient des tâches en commun. Il y a des photos d'archives qui montrent des Anglais, des Français et des Allemands quasiment main dans la main, faisant des tâches similaires. Ils ont été relativement bien accueillis par la population locale. Certains ont même intégré des chorales dans des villages, etc. Mais ils étaient placés dans des camps d'internement sous une juridiction et sous la loi militaire suisse. Ce qui fait que, évidemment, c'était pas aisé tous les jours, puisqu'ils ne savaient pas quand allait se terminer leur internement. Et il y a eu quelques problèmes. Par exemple, en Suisse alémanique, une quarantaine de soldats allemands décident de prendre la poudre d'escampette. Ils seront rattrapés, internés, enfin enfermés à la prison de Regensdorf. Voilà. Mais en règle générale, ça s'est relativement bien passé.
Il y a aussi Pardon. Oui, c'est oui, poursuivez.
On a pas simplement de photos d'archives qui démontrent des banquets qui ont été faits pour les internés, que ce soit les Français, Belges ou Allemands, peu importe. Il y a même des haies d'honneur avec des pelotons qui tirent en l'air de soldats suisses lorsqu'un de ces internés meurt, parce que ces internés, en fin de compte, étaient des gens qui avaient été, enfin des soldats qui avaient été blessés sur le front et qui venaient se faire soigner en Suisse.
Mmh. La perception de ces internés par la population, c'est intéressant, par exemple, de constater le phénomène qu'on a observé en France avec des tirailleurs sénégalais qu'on a dépeints comme des guerriers absolument fantastiques sur le terrain. Puis du coup, quand ils revenaient à l'arrière, ça suscitait des problèmes parce que les gens en avaient peur. Est-ce qu'il y a eu un petit peu ce genre de phénomène aussi en Suisse avec, par exemple, des internés allemands où on avait beaucoup parlé à travers la propagande de guerriers sans pitié, sans foi ni loi? Et ensuite, quand ils étaient internés en Suisse, est-ce que ça posait des problèmes d'intégration là?
Non, il y avait relativement peu de problèmes dans l'intégration. Surtout que ces internés, en fait, travaillaient pour la population civile dans les champs, donc pour l'agriculture, entre autres. Et puis, il y a des épisodes qui sont très peu connus, mais qui ont marqué les esprits. Par exemple, on est en 1917, il y a une avalanche dans les Grisons qui emporte un train. Il y a plusieurs tués, et c'est des internés allemands, une centaine de soldats allemands qui viennent jouer les secouristes, évidemment avec des soldats suisses. Mais évidemment, c'est des épisodes qui sont tout à l'honneur des internés, quelle que soit la nation qui était la leur.
Mmh. Page d'histoire passionnante, merci de l'avoir partagé avec nous. Christophe Villemier, vous êtes historien, spécialiste de la Grande Guerre, et puis président de la Société d'Histoire de la Suisse romande. Une bonne soirée à vous, monsieur.
Merci, bonne soirée à vous, au revoir.